C'est le coup de théâtre judiciaire du jour, 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard. Son mari, condamné en première instance, a donc écrit à ses avocats et il reconnaît avoir une responsabilité dans cette histoire. Donc, il avoue et maintenant il est prêt à aider les enquêteurs à retrouver le corps. Écoutez son représentant légal.
Quelques semaines, il m'a dit, écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Parce que quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il s'est dit, il ne faut pas qu'il ne voit ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas. Et donc, très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule. Et en ce qui nous concerne, nous espérons que tout sera fait avec l'aide de Cédric Jubilard pour retrouver le corps de Delphine. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui.
C'est donc un véritable coup de théâtre que l'on vit en ce moment, 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard. Eh bien, enfin, mais il faut reconnaître que c'est quelques mois, enfin 3 mois, avant son procès en appel, Cédric Jubilard, en fait, dit des aveux. Il dit, c'est moi, Dominique Rizet. Voilà ce qu'il dit de
Cédric
Jubilard. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu. Regardez, j'ai apporté ça parce que enfin, je ne fais pas ma promo, mais ce livre qu'on a écrit avec. Non, mais on ne le trouve plus. Qu'on a écrit avec un ami de l'AFP, Rémi Bellon, sur les aveux. Il y a 25 ou 30 aveux dedans. Personne n'a jamais avoué comme ça au bout de 5 ou 6 ans de détention, après avoir été condamné à 30 ans. Donc, les 6 ans qu'il a fait sont déductibles des 30, il en reste en principe 24 à faire. Mais on n'a jamais vu quelqu'un avouer comme ça, d'un seul coup, tomber du ciel et faire des aveux. Alors que quand même, et on écoute ses avocats et la conférence de presse, il a eu 1000 fois l'occasion de le faire. Tous les avocats qui lui ont parlé, Mourad Batik, Pauline Rongier, tous ceux qui étaient là à l'audience, devant la cour d'assises, lui ont dit « mais dites-nous la vérité ». Est-ce que et à chaque fois, il a répondu « mais non, c'est pas moi », avec un aplomb extraordinaire. Donc c'est.
Il dit « j'étais verrouillé par la pression ». Par la pression médiatique, vous connaissiez le verrou de la pression médiatique?
Non, dans ce sens-là, non, je la connais pas beaucoup, je la connaissais pas beaucoup, surtout qu'au départ, ce que ces conseils oublient de préciser, c'est que c'est quand même associé aux recherches. Je rappelle quand même de pression, il y en avait pas beaucoup à ce moment-là, qu'au contraire, il avait toute l'attitude pour être à l'aise et se confier à qui il avait bien envie de se confier. Non, on va être clair, soit qu'on a assisté avec ces deux avocats, c'est une pantomime. C'est juste une pantomime, c'est du cirque. Alors peut-être pour répondre à la question de Dominique, pourquoi des aveux comme ça à ce moment-là? Bah tout simplement peut-être parce qu'en première audience, il pensait pas être condamné à 30 ans et que de manque de peau, alors que la défense était basée sur l'acquittement, il est condamné. Ouais. Il y a une deuxième chance qui est donnée. Là, tout à coup, on joue le coup de la rédemption.
Alors, attention,
pour
parce
moi,
que
c'est clair et net.
On ne sait pas tout encore. Il n'a pas dit comment il avait tué.
Il n'a pas dit qu'il l'avait tué. Les mots ont un sens. Il n'a pas dit qu'il l'avait tué. Il a dit je suis à l'origine de la disparition.
Il a dit qu'il avait donné la mort.
Oui, ouais, mais c'est pas clair.
Ah oui, mais donc,
si on veut répondre à cette question de façon très factuelle pour arrêter les divagations de ces avocats conseils, le président de la cour d'appel n'a qu'à ouvrir une information, ordonner son extraction, qu'il amène les enquêteurs ou les magistrats là où est le corps de Delphine Jubilard et basta. Et on arrête.
Mais c'est ce qui va se passer, non?
J'espère.
Parce que c'est ce qu'il laisse entendre. Il est prêt, en tout cas, c'est ce qu'ont dit ses avocats, il est prêt à dire précisément où se trouve la dépouille de Delphine Jubilard.
Mais celui-là, on a tellement raconté dans un sens comme dans l'autre, à Marco, son copain de cellule, à Jennifer, son ex-petite copine, j'ai mis le corps là, c'est moi, j'ai fait ça.
Du coup, tous ces témoignages étaient vrais.
Mais à sa mère.
Quand il avait dit à sa mère, j'ai envie de la tuer, finalement, il fallait le croire.
Mais après, quand on est allé lui demander, est-ce que vous avez vraiment dit ça à votre mère? Est-ce que vous avez vraiment dit ça à Marco? Est-ce que vous avez vraiment dit ça à Jennifer? Il a dit, mais non, c'est des conneries, j'ai jamais dit ça, ils ont tout inventé. Donc, je veux dire, c'est quand même un peu compliqué. Et très vite, pourquoi est-ce qu'il parle maintenant? Il a pris 30 ans. Le 21 septembre, il part en appel, cour d'assises d'appel. S'il arrive à se rendre sympathique, ce qui va être compliqué, mais il peut espérer avoir la peine qu'a eu Jonathan Daval.
On va y revenir sur effectivement la stratégie, parce qu'il y a aussi une stratégie derrière de défense. Mais Maître Vial, bonsoir. Moi, je voudrais comprendre, parce qu'il faut bien préciser que Cédric Jubilard a changé d'avocat.
Oui.
Il a désormais la famille Dubuisson, un père et fils, qui sont des avocats réputés dans la région. et qui visiblement ont réussi à le faire avouer, si je comprends bien. Et eux, ils expliquent que Cédric Jubilard est dans un état assez difficile. On lui a mis des médicaments extrêmement puissants qui en faisaient presque un zombie. Et ça expliquerait le comportement de Jubilard qui, pendant longtemps, a été mutique, notamment durant son premier procès. Est-ce que c'est une explication ?
Disons qu'en tout cas, c'est l'explication qui nous est donnée aujourd'hui par ses conseils. Maintenant, vous sentez l'agacement sur votre plateau parce qu'effectivement, vous avez quand même une audience qui se déroule devant des professionnels, des confrères en partie civile, des confrères qui l'ont défendu en défense, aussi une cour d'assises et, il faut le dire, un avocat général qui n'a pas manqué de regarder si l'État était compatible avec une comparution devant une cour d'assises. Et à aucun moment, tous ces professionnels n'ont estimé que Monsieur Jubilard était dans un état second qui l'empêchait de répondre aux questions ou on a, je crois, un psychologue sur votre plateau, un état psychologique qui ne permettait pas de comprendre ce qu'il disait et donc interrogeait sur sa santé mentale.
Alors comment expliquer ce revirement, selon vous ? Vous, l'avocate, vous êtes en contact avec des accusés. Comment on arrive vers comme ça à avouer son crime ?
Ce sont des dossiers difficiles. Moi, j'ai assisté quelqu'un qui était accusé, qui a été condamné pour un féminicide à Moneto en 2021. C'est des dossiers qui sont difficiles à mener. En face, on a effectivement une pression. Alors, elle peut être médiatique, ça c'est une réalité. Mais il y a aussi la pression des faits, du drame. Parfois, des enfants qui survivent au drame.
Et donc, deux
tout
enfants,
ça,
là, en l'occurrence.
Exactement. Tout ça peut effectivement jouer dans le cadre d'aveux. Maintenant, là, ce qui est, je crois, extrêmement difficile pour les professionnels que nous sommes, et on en parle y compris entre confrères, c'est qu'on vient mettre en avant une lettre, un courrier qui a été adressé à son avocat, et ça c'est vrai que normalement, c'est du jamais vu parce qu'en fait, les courriers sont strictement confidentiels entre un client et son avocat, ça veut dire qu'on ne peut le montrer à personne.
Sauf si il y a l'accord de la personne qui...
Non. On n'est jamais relevé de son secret professionnel. Jamais. Donc même un client qui nous dit « Allez-y maître, donnez-moi ce courrier que je vous ai écrit, vous pouvez le transmettre au président de la cour d'assises », eh bien on refuse, on dit « Vous écrivez directement au président de la cour d'assises ».
Pourquoi il est passé par son avocat ? Pourquoi il n'a pas fait directement ses aveux ? C'est surprenant, ça.
On aura peut-être la réponse dans les prochains jours ou peut-être à la cour d'assises même lorsqu'il y aura enfin l'interrogatoire au fond
Vous comprenez ça, son éventuelle stratégie ou la stratégie de vos confrères 5 ans après la disparition, après la condamnation et à 2 mois du procès d'appel d'avoir ces aveux qui arrivent maintenant comme ça ou pas?
Et c'est difficile de comprendre parce qu'il y a énormément de critiques. C'est-à-dire que des aveux de quelqu'un qui a besoin effectivement à un moment donné de donner la vérité et de dire et de soulager sa conscience. Et puis aussi, il faut le dire, peut-être soulager ses enfants. Ça, on peut le croire et on peut l'entendre.
Ce qu'il dit, donner une sépulture à la mère de mes enfants.
Complètement, on peut l'entendre. La difficulté, c'est que dans le même temps, on tacle ces anciens conseils qui ont fait un travail, je crois, remarquable.
Oui, c'est pas mal.
Et en même temps, on vient violer le secret professionnel en le faisant par voie de presse, alors que normalement, on le fait en écrivant à la présidente ou au président des assises en appel, en lui demandant un supplément d'information ou peut-être la réalisation d'une expertise, ce qui peut se faire entre la première instance et l'appel. Cette occasion-là que l'accusé vient dire un certain nombre de choses qui peuvent donner lieu à un supplément d'information.
Dominique, vous alliez sur cette piste. Est-ce que les aveux de Jubilard peuvent rendre le jury en appel plus clément, plus compréhensif?
C'est très vraisemblablement ce que lui espère. Mmh. C'est ce qu'il espère. Sinon, quel intérêt ? Moi, je crois pas du tout, Maître Vial, mais qu'il ait envie de dire la vérité à ses enfants. Vous voyez, il a tellement menti. Ses enfants lui ont demandé de dire ce qui s'était passé. Il a menti. Je le vois pas faire ça. Je pense que dans sa tête, tout est calcul. Que tout est petit calcul.
Pas que dans la sienne.
Et donc, peut-être dans celle de ses avocats aussi.
C'est
effectivement
évident.
Il prend 30 ans en première instance. Et là, on appelle. Mais il peut se dire, si je me rends sympathique devant la nouvelle cour d'assises, cour d'assises, eh bien, je peux espérer m'en tirer avec 25 ans.
Mais je voudrais interroger, Florent Gaterias, vous êtes psychocriminologue, parce que ce qu'on met en avant aussi, ce sont ses conditions de détention. Il est à l'isolement depuis 5 ans. Des conditions que ses avocats décrivent difficiles. Il est d'ailleurs en ce moment en service médico-psychologique régional. C'est une unité à part en détention. Donc, qu'est-ce que ça joue aussi, sur une étape psychologique, dans cette lettre adressée à ses avocats?
Très probablement. Revenons à la personnalité de Cédric Jubilard lui-même. Il est décrit comme étant quelqu'un qui globalement, a eu une enfance où il a été, où il s'est senti abandonné, placé en foyer, un beau-père violent, une mère qui le couvait un peu trop, en le laissant un peu faire toutes les choses. Bref, c'est quelqu'un qui s'est développé en ayant une intolérance à la frustration, en ayant une capacité à réagir sous la force de l'impulsion, à manipuler les uns et les autres, et avec une empathie relativement faible pour l'entourage. C'est en tout cas comme ça qu'il est décrit dans ce que l'on peut en voir. Cette définition-là montre que c'est quelqu'un qui, en prison, doit subir de façon assez frontale le choc carcéral. Et surtout qu'il est placé à l'isolement parce que c'est une affaire médiatique. C'est probablement pour ça.
Pour sa propre sécurité, c'est ce qu'on nous dit.
Évidemment. Oui, c'est pour ça. C'est aussi, c'est probablement pour ça aussi, qu'il a eu un traitement, pour diminuer l'angoisse.
Alors, ce traitement, il est obligé de le prendre. On le force à le prendre.
Non.
Parce que c'est ce que les avocats laissent entendre.
Ils ont même parlé de torture.
Il était presque un zombie. Il était devenu presque un zombie.
Ne peut pas y avoir de traitement forcé en prison. Ce serait considéré comme une double peine.
D'accord. Ça n'annule pas éventuellement les facultés cognitives.
Il y a un effet sédatif, mais.
C'est-à-dire entre lui-même, peut-être son blocage plus les médicaments.
On parle quand même de torture blanche. Dans le cadre de l'isolement, il faut quand même le dire, l'isolement produit des effets mais désastreux sur la mémoire. Mais bien sûr, et ça n'est pas seulement moi, c'est la jurisprudence. On a été condamnés.
Ça veut dire quoi, torture blanche?
Ça veut dire que, concrètement, quand vous ne voyez personne toute la journée, eh bien, au bout d'un moment, ça a des effets sur votre santé mentale, et ça a notamment aussi des effets sur la mémoire. Et donc, il y a un certain nombre de choses que vous n'êtes pas en capacité de restituer.
Jusqu'à oublier qu'on a tué sa propre femme.
Alors, probablement pas jusque-là, et je ne suis pas expert pour pouvoir le dire. Mais entendez quand même que cet isolement, c'est quelque chose qui est vraiment suffisamment difficile pour qu'on parle de torture, et ça n'est pas la défense qui le dit, c'est vraiment notoirement connu.
L'isolement, c'est quelque chose qui peut rendre fou.
Jean-Pierre Colombier.
Non, c'est quelque chose qui
peut... Ça vous gêne pas l'isolement, Jean-Pierre?
Très bien, ok. Mais comment il a fait pour nouer une relation sentimentale alors pendant cette incarcération?
Ça n'a rien à voir, il est enfermé toute la journée. Il est enfermé toute la journée.
C'est vrai qu'il a créé une relation, donc il
peut parler même à ses co-détenus.
Non, mais on va être sérieux, deux secondes. D'abord, il a eu des coups de détenus. Il faut pas dire n'importe quoi, puisqu'il s'est confié à d'autres détenus. Il a eu noué une relation sentimentale. Moi, je suis désolé, quand on me parle d'état d'abattement, regardez, rediffusez les images de sa première audience. Il est tout sourire, il est décontracté. Et je vais vous dire un truc. Moi, j'ai assisté aussi, en tant que policier, j'ai été cité comme témoin à des assises où les clients des avocats qui les défendaient étaient tellement désappointés de la propre attitude de leurs clients que certains m'ont même dit parfois à l'audience: qu'est-ce que vous légiez pour rien, il est con. Ok. Parfois, il y a aussi, et ça faut le dire,
donc,
ce qui est en train de se
passer. Vous le mettez dans quelle catégorie, Jean-Pierre Colombier?
Moi, je le mets dans la catégorie des manipulateurs. C'est évident. Il a passé son temps, comme l'a dit,
il a menti pendant 5 ans.
Ça n'a été que ça. Et il s'était bien installé dans cette. Et c'est pas moi qui le dis. C'est son avocat d'ailleurs de la première audience qui dit: pour moi, ce revirement, je ne me l'explique pas, parce qu'il était assis, conforté dans son positionnement de plaider l'innocence. Et c'est pour ça qu'il comptait, je pense, sur l'acquittement, parce que le dossier, en termes de preuves matérielles, physiques, est faible.
Donc ce sont des aveux trop tardifs, faut être honnête.
Bien évidemment. Enfin, faut pas sortir de Saint-Cyr pour s'en apercevoir. Il y a un timing évident avec l'appel. L'idée, c'est de repousser cette audience, peut-être.
C'est ce que souhaite son avocat. Oui, il estime que ce serait grotesque, justement, le procès en appel se tienne à date prévue.
Je voudrais savoir, dans ces cas-là, pardon, parce que du coup on vous a un peu coupé la chic, je suis navré, mais est-ce que c'est lui qui a décidé, c'est le moment, je le fais, c'est le moment de dire ce que je sais, dire ce que j'ai fait, en collaboration avec ses avocats, c'est lui qui décide ou ce sont ses avocats qui arrivent à le faire venir à eux?
Alors évidemment, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas dans le secret des parloirs entre les avocats et leurs clients. Ce qui est certain, c'est que là, Cédric Jubilard est un petit peu au pied du mur. Le procès en appel va arriver. Si effectivement il ne réagit pas, et sa défense le sait très bien, s'il ne réagit pas, ça risque d'être la même sanction pour les mêmes,
voire plus,
les choses vont faire les mêmes effets.
Voire plus,
mais plus visiblement non. Donc il faut changer la donne. donne. Pour changer la donne, il faut qu'il se présente sous un autre jour. C'est que Jubilard est très soucieux de l'image qu'il donne de lui-même. Et il est très sensible à ça. Et c'est effectivement ce qui est probablement le moteur de ce changement qui est, si ce n'est manipulatoire, en tout cas défensif, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est quelque chose qui lui permet de passer d'un état, d'un rôle de celui qui subit à celui qui agit, d'une personnalité qui se dit victime de sa famille, de la société, de la justice, à celui qui maintenant prend les choses en main. D'accord. C'est manipulatoire, mais c'est défensif. On peut le comprendre.
Alors, le drame s'est joué à Cagnac-Lémy. Nous retrouvons Arthur Descudé en direct pour BFM TV parce que ce qui est intéressant de savoir, Arthur, c'est quelles sont les réactions dans la ville des Jubilards. Est-ce que c'est soulagement, entre autres, ou pas ?
Oui, vraiment, c'est un ouf de soulagement ici à Cagnac-les-Mines. Alors nous, avec Léane Delabrière, eh bien, on se trouve devant l'ancienne maison, l'ex-domicile du couple Jubilard. C'est ici où Cédric et Delphine ont passé quelques années. Et c'est surtout dans cette maison que s'est tenu ce drame en décembre 2020. Vous le voyez, une maison qui a été complètement abandonnée. Les ronces recouvrent cette habitation. Il y a également un mémorial qui a été installé ici en hommage donc à Delphine. On a également juste à côté l'ancien véhicule de Cédric Jubilard. Voilà donc grande émotion dans ce quartier et vous le disiez, surtout un ouf de soulagement. C'est en tout cas ce qu'on a compris quand on a rencontré quelques habitants de ce quartier. Je vous propose de les écouter, ils sont au micro de Léane Delabrière.
Soulagement quand même, maintenant on a hâte de découvrir où elle se trouve et mettre fin enfin à ce calvaire pour les enfants.
Vu le personnage, je pensais pas qu'il avouerait un jour. Malgré qu'il y a des choses qu'on peut comprendre, l'enfermement, rester dans son mensonge avec un poids lourd à porter comme ça, penser à ses enfants, à sa famille, à beaucoup de choses.
Voilà, vous l'avez compris, donc ouf de soulagement ici à Cagnac-les-Mines. Mais maintenant, on attend de savoir où a été placé le corps de Delphine Jubilard et surtout, quand est-ce que Cédric Jubilard donnera donc plus d'informations à la justice.
Arthur Descudé avec Léane Delabrière à Cagnac-les-Mines. Corps, la question du corps.
Oui, alors justement, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce que les gendarmes vont très rapidement entendre Cédric Jubilard pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé précisément cette nuit-là et où est le corps ?
La présidente de la cour d'assises d'appel ou le président va prendre une décision, va dire oui, on y va, non, on n'y va pas, entendez-le, allez-y. Bien sûr qu'il faut aller vite, évidemment qu'il faut aller vite.
Est-ce que le procès peut se tenir en septembre ? Les avocats voudraient que la date soit repoussée.
Je pense que oui, s'il collabore, il y a deux mois de non, c'est trop un peu juste, un mois et demi.
C'est juste.
Vu le temps judiciaire qui est toujours très lent.
Et si on retrouve le corps, d'abord, il va falloir l'identifier, y aller, puis c'est ça, il va falloir faire quand même une autopsie et puis réentendre Monsieur Jubilard sur les circonstances de la mort, parce qu'en fait il va falloir quand même y avoir un interrogatoire au fond. Ça peut aller assez vite, c'est septembre quand même.
On a compris que la stratégie
la justice travaille pas au mois d'août.
La stratégie des avocats, c'est de défendre le crime passionnel, un terme qui n'existe plus juridiquement. Maintenant on parle de féminicide.
Ça n'existe plus, le crime passionnel, on est d'accord.
En fait on romantise, ce mot romantise quelque part le crime. Et donc en fait il y a quand même à un moment donné l'envie de se séparer de ce terme qui a été utilisé pendant des années par la défense pour essayer d'expliquer qu'il y avait des crimes qui se déroulaient dans le cadre
un crime d'amour.
Voilà, de difficultés relationnelles amoureuses, mais le crime passionnel, ça tend à romantiser.
Ça, c'est inaudible aujourd'hui. Inaudible.
Non, il faut plus l'utiliser, je pense. En tout cas, c'est mon avis.
Merci.
Dis-moi un peu quelle passion il y a dans le meurtre d'une femme par un type qui met sa femme dans le coffre d'une voiture et qui va l'enterrer.
Alors d'ailleurs, l'explication, c'était
féminicide.
C'était pour ne pas montrer le corps aux enfants.
Oui.
Ah bah oui. S'il avait peut-être l'intention.
C'est l'explication qu'il apporte. Je ne suis pas là pour y croire ou pas, je donne les faits.
Moi, j'y crois pas.
Maintenant, la deuxième étape, c'est qu'effectivement, ses avocats, ses conseils arrivent à lui faire dire où est le corps.
Où est le corps, parce que c'est, ça, on n'a pas besoin d'attendre des mois.
Dans un instant, la deuxième, on va s'intéresser aux incendies. On va regarder où on en est sur le front des incendies. Dans les Pyrénées-Orientales, essentiellement, il y a du vent sec, il y a la chaleur qui est là. Les pompiers ont mis les moyens, mais les feux ne sont pas encore maîtrisés.